la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Je vous invite à découvrir l'exposition, enfin les deux expositions, ou découvrir simplement le musée d'art contemporain du Carré d'Art. Depuis le 25 octobre 2024 et jusqu'au 23 mars 2025, dans le cadre de la Lituanie, de la saison de la Lituanie en France, on est en Lituanie au Carré d'Art avec Jean-Marc Prévost. Bonjour.
Bonjour.
Et merci. Avec deux artistes, deux femmes. C'est un hasard ou c'est... vous n'avez pas pris un homme et une femme, vous avez...
Non, je ne réfléchis jamais comme ça. C'est une histoire de sensibilité, je ne fais pas de quota.
Non, bon, non mais je savais, hein, c'était pour vous provoquer un petit peu. Alors, deux artistes, Alexandra Kasuba, Imaginez le futur, donc qui est une artiste qui est décédée, et une très jeune artiste, Marija Olzouskaïté, désolée pour l'accent. La première exposition s'appelle « Imaginez le futur » et la seconde « Soft Touch Hard ». J'ai eu la chance d'assister à la visite de presse. C'est toujours un plus hein, d'avoir les artistes. Vous les côtoyez sans arrêt. Et comment vous avez abordé la construction de cette exposition?
Alors,
donc
déjà,
c'était la Lituanie.
C'était la Lituanie. Il y a des saisons culturelles qui sont organisées chaque année entre la France et un pays. Cette année, c'était la Lituanie, donc il y a plusieurs événements, pas uniquement art visuel, mais il y a le théâtre, la danse, la littérature. Et donc j'ai été invité en Lituanie, en fait, pour découvrir. Je connaissais déjà, on avait déjà exposé une artiste lituanienne dans le Project Room.
Je me souviens, oui.
Et donc je connaissais la directrice du Centre d'art de Vilnius et tout ça. Donc je connaissais, donc je suis parti là-bas avec l'idée de découvrir des artistes, et j'ai surtout j'ai visité le musée national de Lituanie, le grand musée d'art moderne et d'art contemporain, et là j'ai découvert Alexandra Kasuba, que je ne connaissais pas, qu'il y avait quelques œuvres dans la collection, l'accrochage de la collection permanente, et après la directrice du musée m'a emmené dans les réserves, j'ai regardé, comme elle a vu que je m'intéressais à elle, elle m'a montré un peu plus. Donc j'ai regardé ça, j'ai regardé beaucoup d'autres artistes, on m'avait organisé des visites d'ateliers, des visites d'expositions, et en fait quand je suis rentré en France, au départ c'était plutôt pour montrer un artiste mi-carrière en fait, et c'était pas forcément une expo historique, et en fait ce qui m'est resté dans la tête c'était cet artiste-là.
Ça avait changé de direction.
Et donc j'ai appelé mes collègues lituaniens, j'ai dit je veux présenter Alexandra Kasuba, et tout le monde était très content.
Ils étaient
ravis. Parce que c'est une grande figure pour eux, qui est un modèle d'une personne qui a été exilée aux États-Unis, qui est redevenue maintenant, qui commence à être visible. Elle est surtout connue en Lituanie et aux États-Unis, où ses archives sont au Getty. Elle a donné, avant de mourir, toutes ses œuvres au Musée national de Lituanie, qui conserve l'ensemble de ses œuvres, où ils ont fait une exposition il y a quelques années, mais plus petite que celle de Carré d'Art. Et donc maintenant, elle commence à être... c'est tout le début de sa visibilité, en fait, comme on revisite beaucoup de femmes qu'on n'a pas regardées pendant longtemps.
Mais ça fait penser à l'exposition de Léna Vendrait dans Le Nouvel Accrochage, pareil, qui était peu connue. Et donc, c'est toujours fantastique de remettre au goût du jour ou en visibilité. Alors, je rappelle qu'elle est née en Lituanie en 1923. Elle est morte en 2019 au Nouveau-Mexique. Et elle a vraiment traversé le XXe siècle. Ouais, et toutes ces... Mais il y a un côté excessivement coloré, excessivement joyeux. On peut réfléchir justement à... l'effet de l'exil sur une personne, sur une artiste, hein, comment vous avez ressenti comme ça, vous?
Je trouve que c'était une personnalité, j'ai parlé avec la commissaire, hein, parce qu'il y a une commissaire, je ne suis pas le spécialiste d'Alexandra Kasuba, maintenant je connais un peu mieux, mais il y a quelqu'un qui travaille sur elle depuis très très longtemps, et qui l'a côtoyée en plus, qui l'a connue, Et en fait, c'était une femme très forte, un peu comme Léna Vendrée, je pense, une femme très forte qui s'est beaucoup battue. Elle était très culottée parce qu'elle elle concourait pour des concours d'architecture. Ça ne devait pas être facile pour une femme dans les années 70, pas américaine. Bon, elle parlait parfaitement l'anglais, elle était d'une famille quand même, d'une bonne famille aisée. Donc elle avait un appartement sur Central Park et tout ça, donc elle était pas, c'était pas quelqu'un de malheureux. Mais elle a une vie complexe quand même, parce qu'elle est partie en 1944, où elle est obligée, des Lituaniens qui s'exilaient au moment que les Russes sont envahis, sont restés en Allemagne dans un premier temps, avant de partir vers les États-Unis.
Oui, je suppose, dans des camps.
Ils étaient dans des camps avec son mari. Son mari était un artiste très connu, beaucoup plus connu qu'elle, un artiste, comme on dirait aujourd'hui, un peu pompier, qui faisait des sculptures figuratives pour l'espace public, et qui a été complètement oublié, en fait, en revanche, mais qui était très connu à l'époque. Et elle est arrivée aux États-Unis en 1947, puis s'est installée définitivement à New York en 1963, en fait. Et donc, c'est quand même un parcours qui n'est pas aisé. Elle venait, en fait, elle n'était pas architecte, mais elle avait fait des études d'art plastique, et donc l'envie d'architecture et de reconstruction, là c'est pareil, de construire un nouvel espace, de construire un nouveau monde, ça s'est déclenché quand elle est arrivée aux États-Unis, en fait, avec tout ce qui se passait à ce moment-là aux États-Unis aussi, qui était un moment de grande créativité dans les années 60 et surtout dans les années 70.
Mais donc, c'est vrai que vous parlez de ces œuvres de jeunesse. C'est vrai que la première salle, c'est ces œuvres de jeunesse, mais on a surtout cette découverte architecturale en tissu de toutes les couleurs de la deuxième salle. Donc c'était bien, moi, je trouve, de mettre les œuvres de jeunesse en disant, voilà, c'est l'architecture, c'est greffé un petit peu sur son parcours plus classique.
Oui, parce qu'elle a concouru, en fait, pour des parois architecturales, pas construire des immeubles vraiment, mais des grands murs qui étaient un aspect décoratif et qui faisaient beaucoup référence à la nature, en fait, dès le départ. On voit bien, il y a une pièce dans l'exposition où on voit qu'elle a utilisé des galets, en fait, qu'elle a ramassé sur les plages. Et c'est des choses qu'elle utilisait dans ses architectures, ou alors la brique qui faisait comme des vagues, en fait, où il y avait la lumière qui devait jouer avec les formes. C'est une constante de son travail. Et après, elle est connue, et elle est la première, ce que l'on dit, sur la construction d'architecture textile, en fait, en s'opposant, en fait, à l'orthodoxie de l'architecture moderniste, avec les angles et les lignes droites, de faire quelque chose de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus sensuel aussi. Et donc, l'installation qu'on a dans l'exposition est une sculpture architecture, c'est pas vraiment une architecture, mais elle a fait des architectures d'intérieur qui étaient vraiment utilisées, c'est-à-dire même à la Défense, elle a fait des bureaux, en fait, à la Défense, à Paris.
Mais ça restait pas un concept.
Et puis
sa maison, qu'on verra plus tard dans les autres salles. Donc c'était la vie, quoi. C'était un cadre de vie, c'était pas une... Je pense à Jacques Tati, où ça restait tout de même un petit peu un rêve, alors qu'une utopie, alors qu'elle, c'était vraiment...
Oui, elle voulait vraiment avoir une efficacité, en fait, en construisant une nouvelle forme d'espace, d'autres relations à l'espace, d'autres relations au corps, d'autres relations aux autres. Et en fait, pendant un an et demi, elle a utilisé son appartement sur Central Park, avec ses structures en tissu, qui était un lieu à la fois de vie, mais un lieu où elle faisait des happenings, où elle recevait du monde. C'était un lieu de création, en fait.
Mais c'est tout à fait le contexte de l'époque, hein, les 70s, ce côté joyeux, ce côté un peu aussi... un peu débridé, quoi. Je sais pas comment dire.
Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti de l'exposition. C'est vrai que j'avais pas ressenti ça comme ça quand j'ai pensé l'exposition, de faire une exposition de cet artiste. Mais quand j'ai ouvert l'expo et quand on a installé, j'ai dit c'est quand même joyeux par les temps, le marasme qu'il y a aujourd'hui où il n'y a pas de perspective. c'était un moment où il y avait des, oui, des possibles, en fait, et les gens voulaient inventer autre chose.
Les happenings dont vous parliez, je
trouve. Ils voulaient inventer d'autres mondes, d'autres relations au monde, d'autres relations à la nature aussi, parce que la nature était quand même, oui, dès le début, très très importante avec elle, avec ce même ce spectre de lumière, les différentes couleurs. On voit bien là, c'est très... On comprend bien dans l'exposition, il y a une première installation qu'elle a faite, qu'on a la maquette, où les couleurs ne se mélangeaient pas.
Oui.
Alors que dans l'arc-en-ciel, les couleurs se mélangent. Donc elle a refait la deuxième installation où c'est le corps du spectateur qui, en parcourant l'espace, mélange les couleurs.
Oui, j'allais le dire, le fait d'entrer dans cette structure, de cheminer dans la structure, j'ai eu une impression de cocon, une impression un peu fœtale. C'est très intéressant. Et comment, là on a parlé beaucoup de New York, de cette ambiance de New York, et je fais tout de même un net parallèle avec l'émission que nous avons fait avec Mina pour Léna Vendrait, c'est-à-dire cette notion de, à la fois de création, d'isolement et en même temps de convivialité, de faire découvrir enfin, sa maison dans... sa maison en toile. Comment elle a eu l'idée d'aller au Nouveau-Mexique avec cette maison d'hôte, hein, que j'ai trouvée absolument extraordinaire, cette Rock Hill House qui est montrée en photo, qui est montrée... comment s'est fait le basculement?
Je ne connais pas vraiment les détails, mais je pense que c'est bon. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc c'était un moment... et on s'aperçoit qu'elle y a été à la fin de sa vie aussi.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle était très âgée. On regardait avec une amie l'autre jour, on disait, mais moi, je ne voudrais pas aller vivre dans le désert du Nouveau-Mexique à 90 ans, sans médecin autour et tout ça. Et donc, elle a vécu les dernières années de sa vie là-bas. Et c'est assez étrange. Alors, je ne sais pas vraiment le pourquoi il y a eu ce déclenchement, pourquoi elle est partie.
C'est une notion, un nouvel exil ou au contraire une...
Je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est peut-être qu'il devait y avoir d'autres artistes avec qui on sait qu'il y a Larry Bell. Il y a beaucoup d'artistes en fait. Et il y avait ce rapport à la nature quand même qui est essentiel, ouais, parce que on voit bien dans les années 70. La pièce qu'il y a aussi, il y a une maquette, on voit qu'il y a une installation qui ressemble vraiment à James Turrell. Vous savez, cet artiste américain qui travaillait des grandes installations, des cratères par exemple, où on voit le ciel et tout ça. Et ça a toujours été quelque chose qui l'a fasciné en fait, je pense, la lumière. Et elle a dû avoir une révélation, c'est peut-être un voyage, je ne sais pas. Et
ça me fait penser à Martha Graham, la chorégraphe aussi, qui a beaucoup travaillé ses chorégraphies dans les arbres, dans les lianes. C'est une époque. Et je vous propose qu'on écoute David Bowie, hein, c'est un peu le symbole ou le résumé de cette époque. Je vous laisse redeviner ce qu'on a choisi comme morceau.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass.
boy, could he play guitar? Making love with his ego, sick as sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break out the band.
Sur Radio Alliance Plus, donc Jean-Marc Prévost nous parle d'Alexandra Kassouba, cette exposition donc qui se tient jusqu'au 23 mars 2025. Et là, ça ne sera pas prolongé puisque vous revenez, hein, puisque là vous partez, mais vous revenez pour les prochaines expositions. Donc on a jusqu'au 23 mars 2025. Imaginez le futur, je trouve que ça résume bien en fait. C'est vous qui avez trouvé le titre ou c'est comment? C'est la commissaire d'exposition?
C'était le titre de l'exposition à Vilnius en fait.
Ah d'accord.
Et donc on a repris, on a trouvé que le titre est très beau, donc on a repris ce titre en fait, mais qui colle vraiment au travail de cet artiste en fait.
Et ça fait déjà un bon mois que l'exposition est en place. Vous avez eu des échos? Moi j'en ai entendu beaucoup en disant que c'était absolument extraordinaire, que ce que vous disiez tout à l'heure, la joie, quoi, comme si dans notre société ou ce monde assez terrifiant en ce moment avec les guerres, etc., il y avait une notion d'espoir.
Oui, il y a beaucoup de bons échos du grand public comme de la critique en fait, mais c'est comme vous dites, c'est à cause de cette perspective en fait, et puis aussi parce que c'est une artiste inconnue et qui est quand même une œuvre plastiquement forte aussi, donc ouais. C'est une surprise. Et là, c'est vrai qu'au vernissage, il y avait Beaubourg, le Centre Georges Pompidou, Bruxelles, qui était là pour installer une pièce. Il y a la tête moderne qui vont venir voir l'exposition. Donc, c'est quand même un intérêt qui se fait autour de cet artiste-là. Et je pense que ça va être un moment. Le musée de Lituanie me disait que le MoMA tournait aussi pour faire une exposition. Donc voilà, on aurait été les premiers à faire la grande expo, en fait. Donc,
c'est un peu, je dirais, le travail d'un musée, mais aussi c'est votre rôle. Et c'est vrai que vous l'avez rempli depuis des années, hein, puisque ça fait 12 ans maintenant que vous êtes là. Vous avez toujours travaillé à faire découvrir, et merci à vous. Alors dans la découverte, là on a Marija Ojulska-Ite, donc, qui est beaucoup plus jeune, qui était là également, qui travaille dans un matériau complètement différent, le verre. C'est magnifique. Et là aussi, vous avez découvert à Vilnius, alors pas dans les réserves, dans son atelier, je suppose.
Je la connaissais déjà. Donc, c'est un travail que j'avais déjà regardé. Et en fait, j'ai revu des choses. Elle a eu une grande exposition au musée à Graz, en Autriche. Mmh. Et donc, j'avais vu ces pièces de verre. Je n'avais pas été les voir, mais j'avais vu en image. Mmh. Et en fait,
vous aviez été conquis même dans les images.
On s'était revu à Vilnius. Et donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son travail. Et ce que j'aimais dans son travail, c'est que ça aussi... ça répondait d'une certaine façon au travail d'Alexandra Kassouba. Bon, elle était très honorée, comme jeune artiste, ouais, d'être avec Alexandra Kassouba.
Elle connaissait son œuvre, étant lituanienne, mais
elle était très honorée, donc elle était impressionnée. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être pas dans les formes, mais il y a cette idée de communauté aussi, tout le travail de Marija, c'est de travailler avec des gens qui lui sont proches. Elle a fait venir des amis qui l'ont aidé à faire la lumière, qui lui ont aidé à faire ci, à faire ça. Donc c'est toutes tes pensées comme ça. Et aussi avec son histoire personnelle, sa famille, c'est très très lié à son histoire personnelle. La grande installation avec du papier comme un rideau et les filtres bleus. C'est un hommage à sa mère, en fait, qui est décédée récemment et qui était décoratrice de théâtre. Mmh. Et, qui, dans sa chambre d'enfant, faisait des fleurs sur le papier peint, qui rajoutait des fleurs sur le papier peint. Donc, mais les filtres aussi sont des filtres, parce qu'il y avait deux types de filtres. C'est une anecdote, mais ça montre bien son travail. Elle avait des filtres qu'elle avait achetés dans un magasin, mais il y avait les filtres qu'avait donné son frère. Donc elle a... les filtres du frère étaient moins beaux, mais elle a utilisé les filtres du frère, en fait, qui travaille aussi dans le théâtre. Donc tout ça, c'est un travail extrêmement sensible. Là, les pièces en verre qui sont magiques, hein. Les deux grandes, on dirait des tables, mais ce n'est pas des tables. Elles ont été présentées juste avant à Art Basel à Paris. Et le galeriste était très choqué parce qu'il y avait des grands collectionneurs qui disaient « mais c'est des tables basses ». C'est bizarre, des grands collectionneurs à la journée VIP qui posent ce genre de questions.
Ouais. Ah non, moi j'ai été assez frappée par cette notion, vous voyez, je ne savais pas au niveau du théâtre, mais cette notion justement de devant, derrière, à côté, cour, jardin, enfin moi j'avais ressenti au niveau des... Enfin, j'appelle ça un paravent, c'est pas un paravent, puisque...
Mais... Si, c'est des paravents, c'est parce des paravents. Que le paravent, en fait, pour elle, c'est quelque chose qui sépare l'espace dans un... C'est une intimité limitée, parce qu'on peut toujours le bouger, ce paravent. Mais c'est aussi, comme c'est du verre, c'est une grande fragilité.
Oui.
C'est d'une grande fragilité, et ça correspond à la situation politique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le paravent, là? Ils sont proches de la Russie, hein. C'est, ils sont dans une, dans une géopolitique où tout est fragile et tout peut se casser d'un moment à un autre. Et les grandes plaques de verre horizontales sur le sol, c'est pareil, c'est comme un lac gelé, en fait, qui est magnifique, mais on pourrait couler aussi.
Ouais, on pourrait
Donc il y a toute cette dimension-là qui est dans son travail, qui est très esthétique, très beau. Mais c'est très... ça parle vraiment d'une situation aujourd'hui et très très politique. Elle ne le met pas en avant comme ça, mais c'est quelque chose d'évident.
Oui, vous l'avez ressenti.
Et on peut le dire, on en parlait avec d'autres personnes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les plaques de verre bleu, d'un bleu magnifique...
Ah, hein, c'est superbe.
Ces plaques de verre bleu, elle les a utilisées. Il y a une tradition du verre en Lituanie. Et donc, elle a une usine à fermer où il y avait les ouvriers qui restaient là et qui utilisaient les plaques de verre de couleur. Ils faisaient des œuvres par eux-mêmes. Mmh. Et donc, elle leur a acheté ces œuvres, en fait. Elle leur a acheté pour les utiliser dans son travail. Donc là, c'est aussi l'idée d'une communauté qui est perdue, qui est une entreprise qui a fermé, mais qu'elle arrive, elle veut donner la mémoire de ceux et de travailler avec eux, en fait, quelque part, et d'intégrer leur travail dans son travail. Donc c'est un travail très sensible, mais c'est très politique. Et je pense que j'ai pas vu la pièce au Palais de Tokyo, mais au Palais de Tokyo, elle a fait une pièce aussi, un plafond de verre, en fait. Un peu la même chose que les paravents.
Mais elle les travaille elle-même, ces plaques de verre,
elle le fait travailler non, mais là la grande installation avec le tissu, avec le papier noir, c'est, elle l'a fait elle-même, en fait. Elle est quand même dans la pratique.
Oui. Elle a un côté, c'est vrai, quand on l'a vue à la visite de presse, elle a un côté très, avec son pantalon, avec ses grandes poches, elle fait très, très artiste manuel, je trouve. Ouais, hein, donc ouais, c'est pour ça que je vous posais la,
la question. Elle est proche, mais bon, le verre, c'est une paire de manches, mais elle est quand même très proche, elle a beaucoup travaillé là, à la grande pièce avec le rideau, là, le grand rideau que j'appelle. Donc c'est une belle artiste, et ça m'intéressait vraiment de montrer les deux, et je trouve que ça... Il y a un dialogue, en fait, avec Kashuba. C'est pas la même période, ce que disait d'ailleurs quand on a fait les discours, hein, avec les politiques, avec l'ambassadeur de Lituanie en France et tout ça, qui avait des discours quand même assez politiques. Et en fait, c'est deux générations différentes. Là, il y avait toute cette... Les gens sont partis, en fait, ils ont été obligés de partir. Là, ils sont aussi dans une nouvelle situation où le danger est à la porte, en fait.
Elle pense rester, Marie-Jeanne, ou elle a des objectifs de carrière à l'étranger ou...
Non, je pense qu'il y a une situation, il faut dire qu'en Lituanie, il y a une situation culturelle vraiment très, très bonne, avec beaucoup d'artistes jeunes intéressants, avec des lieux. Il y a un centre d'art, il y a la Baltique Triennale là, qui est en ce moment, et il y a un enjeu, j'étais deux fois là récemment du coup, et donc j'ai visité avec le directeur de la culture, et en fait ils ouvrent plein de nouveaux lieux, et je pense qu'ils ouvrent les lieux justement dans un positionnement culturel vis-à-vis de la Russie. Ils sont obligés de s'affirmer,
nous existons,
et la culture elle fait partie, et là on voit cette saison culturelle lituanienne, elle est très importante.
Ils à Paris, il y a beaucoup de lieux.
Ils ont beaucoup de moyens financiers, mais c'est un moment très précis, en fait, pour eux, de, où ils doivent s'affirmer, en fait. Et donc, et la ville est très agréable, en fait, la ville de Vilnius aussi. C'est
parce
une
que
très
moi,
jolie
pensais,
ville.
Moi, je pensais que les Pays-Baltes étaient surtout très à la pointe des nouvelles technologies, vous voyez. Je ne savais pas, en fait, ce... cette recherche culturelle et c'est important.
Il y a beaucoup de jeunes artistes et là on le voit bien par l'exposition qui est au Palais de Tokyo ou à Cadist. Il y a vraiment des artistes intéressants que moi j'ai repérés et que je connaissais déjà avant dans les jeunes, là, les trentenaires déjà, et il y a tous ceux d'avant qu'on ne connaît pas. Au Musée National de Lituanie, là, il y a du travail à faire, hein, parce qu'il y a tous les années 70 à aller regarder, que personne n'a jamais regardé.
Donc il y a tout un travail.
C'est des pays quand même qui ont été un peu isolés, ils sont un peu isolés du monde. Il y a l'ouverture qui se fait, mais c'est quand même un peu isolé. C'est même de Paris, c'est pas très bon, c'est pas facile. Il n'y a pas des vols tous les jours.
Donc Vilnius, c'est une belle ville,
mais
bon, il y a cette architecture des pays nordiques.
Bah, c'est assez doux, avec beaucoup de briques, et il y a beaucoup de la nature est très présente. Il y a beaucoup de parcs,
les lacs,
de jardins,
les parcs,
de rivières, de la ville est vraiment très agréable. Pas l'hiver, hein, je crois. Je veux bien qu'on m'invite, mais j'irai qu'à partir de mai.
Alors là, vous quittez, là nous enregistrons, nous sommes le 14 novembre, vous quittez le Carré d'Art fin novembre pour d'autres fonctions, d'autres horizons, et vous revenez pour la prochaine exposition. On ne vous lâche pas comme ça tout de suite. Alors quelle est la prochaine exposition, donc après fin mars, je suppose, ou début avril, le temps de l'exposer, et là vous serez le commissaire d'exposition.
Oui, parce que je travaille avec un artiste depuis très longtemps sur un projet d'expo, un artiste brésilien qui s'appelle Lucas Arruda, qui est un jeune artiste qui aura l'espace du haut. Hein, donc c'est un jeune artiste un peu plus âgé que Tariq Kiswanson pour donner la chance à des jeunes artistes, mais qui est très connu au Brésil, qui fait des peintures. Et qui ça sera sa première grande exposition aussi.
Vous êtes spécialisé dans les grandes premières expositions.
Oui, un artiste vraiment. On est là pour ça, en fait, on peut le faire, donc on le fait. Et puis il y aura un artiste des années 70 dans le projet Chrome, très politique, qui a vécu pendant la dictature, qui n'est pas connu non plus, et qui faisait des photos, des performances très violentes, comme beaucoup d'artistes de ces années-là, et qui a ensuite fait des sculptures assez incroyables qui sont liées au corps, et donc qui va exposer, parce que là c'était pareil, là c'est le contraire, il y a l'artiste plus jeune qui expose en haut, et le plus âgé, et qui est décédé du sida il y a quelques années, mais qui est un artiste que j'ai découvert aussi récemment, qui est très très important pour les années 70. Et là, ça sera dans le cadre de la saison du Brésil. On a fait très peu les saisons ici, hein, parce que je ne veux pas les saisons systématiquement chaque année, mais là, c'est des pays intéressants, et, parce que je connais très bien le Brésil aussi. Et on avait fait la saison vietnamienne au tout début quand je suis arrivé.
Oui, je me souviens.
Après, je n'ai pas refait de saison culturelle, et là,
et
ça se
succède. Et là, vous en faites deux. Ben, écoutez, on aura, Joël, le plaisir de vous retrouver donc au printemps 2025. Merci à vous pour cette belle saison lituanienne et à très bientôt.
À bientôt.